Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jusqu'à 38 ans, j'ai toujours eu la même vie, en fait. D'ailleurs, je travaille dans la même agence, j'ai les mêmes amis. Pour changer de vie, en fait, le plus difficile, c'est d'avoir le courage de quitter la vie qui ne nous correspond plus. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est d'avoir le courage de se dire « ça va pas ». Et puis, il faut prendre une vraie décision radicale. Et j'ai mis un an à trouver ce courage-là. J'aurais pas pu changer de vie tout de suite. Et après, on se dit, mince, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? C'est pas du tout... Je veux plus faire ça. J'ai 42 ans, déjà. Je me trouve vieille quand je dis ça. Donc j'ai 42 ans et... De 25 ans à 38 ans, moi, je suis attachée de presse. Donc, voilà, je travaille dans la mode. Et puis, à 38 ans, on m'annonce très brutalement que j'ai un cancer du sein. Donc, ce qui a un peu chamboulé toute ma vie. En 2012-2013, juste avant de tomber malade, je sors beaucoup. Enfin, c'est aussi lié à mon travail. On a beaucoup de cocktails, d'événements le soir. J'ai beaucoup d'amis, j'ai une vie un peu effervescente. Et je m'en rends pas compte à l'époque, mais en fait, je ne suis jamais seule, finalement. J'organise des choses tous les soirs et l'après-midi à 17h, si j'ai rien organisé, c'est un peu la panique. Donc, en fait, j'essaie au maximum de combler les temps morts. Mais je pense que j'ai pas envie de me retrouver seule avec moi-même, en fait. Je pense que c'est ça. À cette époque-là, je refuse complètement la solitude ou d'être seule. Je ne sais pas quoi faire quand je suis seule. Je ne suis jamais dans mon appart, d'ailleurs. Je suis vraiment tout le temps, toujours à droite, à gauche, au bureau ou dans les bars, le soir. Et après, une fois qu'on a vécu un peu, entre guillemets, quand même l'enfer pendant un an, on est prête à prendre plus de risques.
Il y a un an, je suis tombée sur ce livre à peine sorti. Il s'appelait « Les cheveux dont je rêvais » et était signé Marjorie Jacquet. C'était un témoignage, celui d'une fille de 38 ans, célibataire, entourée d'amis, qui travaille dans la mode, habitait le centre de Paris et menait une existence que l'on pourrait qualifier de joyeuse, libre et insouciante. Il racontait aussi comment un cancer du sein lui était tombé dessus, comme débarquent toujours les maladies, sans prévenir, et comment Marjorie était entrée en lutte. Marjorie le dit et le redit à longueur de livre. Elle aimait sa vie et le cancer n'allait pas lui faire reconsidérer ses fondamentaux. Pourtant, ce fut le cas. Nous avons eu envie d'aller à sa rencontre pour tenter de comprendre ce qui l'avait finalement fait changer d'avis. Voici l'histoire de Marjorie et c'est aussi le 4e épisode des Déviations, des histoires de gens qui ont changé de vie.
Mon métier, en fait, c'est de promouvoir des marques de mode. Ça peut être des marques de jeans, de sneakers, de prêt-à-porter. Et les marques, en fait, nous confient leur collection. Et moi, je suis chargée de les promouvoir auprès de toutes les rédactrices de la presse féminine. Mon métier, en fait, c'est d'être en relation quotidienne avec les journalistes de mode. Après, dans une journée d'attaché de presse, en fait, quand on arrive le matin, on ne sait jamais trop... Ce qui va nous tomber dessus dans la journée, c'est ce que j'aimais bien aussi dans ce métier, c'est quand même que c'était un peu tous les jours différent, en fait. On répond aux demandes des rédactrices, des clients, Et puis, on a souvent des événements, des présentations de collections. Donc, c'est une gymnastique. Il faut être tout le temps aux aguets, en fait. Et après, je termine généralement vers 20h au plus tôt. Et là, je rejoins des amis à moi qui font le même métier que moi, des attachés de presse ou des journalistes. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans le même bar. Et je rentre vers 1h du mat, après avoir bu quelques bouteilles de vin. Jamais d'alcool fort, mais on boit pas mal de vin. Moi, à l'époque, je me sens bien. J'ai pas du tout l'intention de changer de vie, ni de travail. J'adore ce que je fais. Et je suis quand même restée 15 ans, ce qui est assez rare dans la même boîte. Et je suis très heureuse de la vie que je mène. Je me sens très épanouie, en tout cas. Un jour de... Ça devait être au mois d'avril 2014. Je vais chez la gynéco pour un contrôle vraiment de routine. Donc elle me palpe les seins. Elle me dit, oui, on va peut-être faire... Enfin, j'ai l'impression de sentir quelque chose, mais je ne suis pas sûre. On peut faire une mammographie, peut-être, comme vous avez 38 ans. Mais elle reste vraiment très vague. Enfin, elle ne me dit pas, il faut aller de toute urgence. Ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait. Donc moi, je ressors avec l'ordonnance. Et puis, en fait, j'y vais pas faire cette mammo. Et j'y vais peut-être au mois de mai, quelques mois plus tard. Et donc, quand je passe la mammographie, là, pareil, encore une fois, on me dit « Ah, il y a quelque chose ». Et là, la radiologue me dit « Mais vous inquiétez pas, c'est sûr, je suis sûre que c'est rien. Mais par précaution, on va faire une biopsie ». Donc moi, là, vraiment, jusqu'à présent, j'ai aucune angoisse, en fait. Déjà, à la base, je suis pas du tout hypochondriaque, j'ai jamais eu peur de tomber malade. Et puis, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là un peu dans ma tête, comme dans la tête de beaucoup de gens, de ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, j'ai passé la biopsie. Les résultats ont été hyper longs parce que c'était au mois de mai, il y avait beaucoup de jours fériés. Là, je commence un peu à m'inquiéter parce que j'appelle au labo. On me dit non, je trouve que la fille, elle est bizarre avec moi au téléphone. Et puis, un jour, j'ai reçu un texto, en fait, un SMS de ma gynéco. Je vous attends demain à 17h dans mon bureau. Donc, bon, là, je me suis dit qu'il y avait un problème parce qu'elle n'osait même pas m'appeler pour en parler, en fait. Et le lendemain, je suis allée dans son bureau et elle m'a dit, de but en blanc, elle m'a dit « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez un cancer du sein ». Là, tout de suite, tout s'est effondré dans ma tête et je me suis mise à pleurer. Elle m'a demandé si j'avais des questions et j'ai dit oui, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Elle m'a dit oui, bien sûr, vous allez perdre vos cheveux. C'est inévitable. Puis bon, après, s'ensuit une batterie d'examens. On est tout de suite pris en charge pour vérifier que le cancer ne s'est pas propagé, en fait. J'ai tout de suite été en arrêt. Puis après, c'est très rapide, en fait. J'ai rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis avec l'oncologue. Et elle nous expose le plan de bataille, parce que ça se passe un peu comme ça, c'est un peu un plan de bataille, en fait. Voilà, donc après, c'est un an de traitement. Quand on me dit ça, eh ben, je ne sais plus quoi faire, en fait. Je suis en choc traumatique. Je pleure énormément. J'arrive pas à croire, en fait, à ce qui m'arrive. J'appelle ma mère, mais je comprends pas ce qu'elle dit, j'entends rien, en fait. Et donc, je rentre chez moi, je sais même pas comment rentrer, appeler un taxi. Et en fait, je cours dans le métro. Après, j'ai appelé tous mes amis. C'était un vendredi soir. Et je suis allée dîner chez une copine qui habite juste à côté. La gynécologue m'avait donné un guide sur le cancer du sein, donc voilà, toute la soirée on a lu, et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, j'ai aucune idée concrète, en tout cas, de ce qu'est une chimiothérapie. Mes amis, ils sont complètement catastrophés. En fait, j'entends dans leur voix l'angoisse, et je lis la peur dans les yeux, en fait. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait. Je me dis, mince, c'est vraiment très grave ce que j'ai, parce qu'ils ont l'air complètement anéantis. Ça me rassure pas tellement, en fait, de les voir aussi angoissés. J'ai quand même beaucoup, enfin non, pas beaucoup de gens, mais il y a des gens qui sont pas très proches de moi, hein, mais des gens comme ça, des connaissances, qui m'ont dit « Ah, oh, mais estime-toi heureuse, t'as juste un cancer du sein. Ça se guérit bien, en fait. » Donc ça, c'est la phrase un peu de toutes les femmes qui ont un cancer du sein. Je crois qu'on nous la sort, mais bon, c'est un peu... C'est une phrase assez terrible. Ah non, mais il y a plein de gens qui... Enfin ouais, il y a des gens qui te regardent en face et qui disent « Oh, ça va, c'est juste un cancer du sein. » Tout le monde me dit « Mais tu vas voir, tu vas changer de vie, je suis sûre qu'après, ce sera génial. » En fait, ça ne me console pas du tout, cette histoire de changement de vie, et puis je n'ai pas du tout envie de changer de vie. J'ai juste hâte de guérir, de retourner au bureau et de reprendre ma vie exactement comme elle était avant. Et quand je tombe malade, je me mets à lire beaucoup, en fait. Et puis un jour, j'ai l'idée d'écrire un livre. Je me dis, pourquoi moi aussi, je n'écrirais pas un livre? Donc je me dis, je vais essayer. Et là, j'ai quand même des amis très proches qui me disent, mais tu ne vas pas y arriver, tu n'as jamais écrit de livre. Je dis, on va essayer. Je suis dans mon lit avec mon ordinateur. Et quand je suis fatiguée, je dors. Et quand je me réveille, j'écris. Et je décroche plus le téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'organise rien du tout. Ça m'occupe en fait toute l'année. Moi qui faisais tout pour ne jamais me retrouver toute seule, là j'ai passé un an à faire l'expérience, on va dire, extrême de la solitude. Et puis je regarde une série, un film, mais bon, très vite... Je me dis, je ne vais pas faire l'année comme ça. Donc, j'ai un peu cuisiné aussi. Et puis là, quand j'ai cette idée du livre, je me dis, ça y est, je sais que je vais faire ça. Et effectivement, je suis super excitée. J'endors plus de la nuit. Et je découvre que j'adore écrire. Et puis, c'est une vraie rencontre avec moi-même aussi. J'écris comme ça, un peu sans plan. C'est chronologique, en fait. Et c'est sans doute thérapeutique hein, aussi, évidemment. D'ailleurs, à l'hôpital, en fait, au début, j'ai vu une psy. Et puis, dès que j'ai commencé à écrire mon livre, j'y suis plus allée, j'avais plus le temps de la voir. C'est un vrai travail sur moi-même. Et j'ai aussi fait l'expérience, cette année, de la liberté. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a plein de côtés que j'ai pas aimé dans la maladie, mais contrairement à ce que je pensais, j'ai adoré écrire mon livre, rester chez moi, plus avoir d'horaire, plus avoir de boss, d'autorité au-dessus de moi et de manger à l'heure que j'avais envie, de me lever quand j'avais envie. Ça m'a beaucoup plu, en fait. Je voyais tout en noir, en fait. Je pensais que cette année, ce serait que du négatif. Pas du tout. J'ai lu un livre qui a tout déclenché, en fait. C'est une amie qui m'a offert un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intention ». Dès que je suis tombée malade, elle me l'a offert. « Le pouvoir de l'intention », c'est la loi de l'attraction. On attire ce qu'on est. Ce livre dit « Si tu te persuades de quelque chose, ça va arriver ». Première chose, je me persuade que je vais guérir. Donc, je me visualise dans l'après. Je suis les conseils... de ce livre qui me paraît comme une évidence. Donc je me visualise guérie. Et puis quand je décide d'écrire mon livre, contrairement aux gens qui m'entourent, je suis persuadée que je vais le finir, en fait, mon livre. Il ne faut pas penser aux choses qui sont négatives ou aux obstacles. Il faut penser uniquement à ce qu'on veut faire. Et on y arrive. « Mon corps, il m'appartient plus, en fait. C'est le produit chimique, en fait, qui prend complètement le pouvoir. Et j'ai plus aucune féminité, j'ai plus de cheveux, j'ai plus mes règles, j'ai plus de cils, de sourcils. Je me reconnais même pas dans le miroir. Mais je m'attarde pas trop, en fait, je me regarde pas trop dans le miroir, justement. En fait, c'est une guerre permanente. Moi, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. Enfin, c'est assez, assez lourd, mais j'écris, en fait. Je garde quand même le moral et j'attends que ça passe, en fait. Et puis, l'oncologue me dit que ça marche, que les cellules tumorales s'effacent. Donc, oui, je vois la fin du tunnel. La fin du tunnel arrive. Et bah, là, c'est bizarre parce que finalement, je dois retourner au bureau. Puisque fatiguée ou pas fatiguée, la sécu, au bout d'un moment, ils disent « Bon, maintenant, il faut retourner travailler ». On n'a pas vraiment d'aide psychologique et on se retrouve plongé comme ça. Bon, déjà, l'entreprise s'est complètement réorganisée sans vous. Donc, c'est compliqué de reprendre sa place puisque les gens, ils vous attendent pas pour... Voilà, moi, je suis revenue, mes clients, ils ont été dispatchés. Et puis, moi, je pense que j'ai, a posteriori, je m'en rends pas tellement compte hein, sur le coup, mais je pense que j'ai fait un peu une petite dépression, mais après le traitement, pas pendant. Pendant, finalement, je me sens très forte. Mais après, quand je retourne au bureau, je me sens pas bien du tout. Je me sens... En fait, je me sens pas à ma place, quoi. J'ai plus envie de faire ça, ça m'ennuie. Je supporte plus du tout l'autorité de ma boss. Et je me sens complètement enfermée dans des horaires, dans un espace qui est le bureau. Et j'ai plus du tout envie de faire ça. Et en fait, comme je suis en mi-temps thérapeutique, je vais souvent à Marrakech. Et là, j'ai l'idée, j'achète des tapis, voilà, une dizaine de tapis, et je commence à les vendre sur Etsy, et puis tout de suite, ça marche bien. Voilà, je rachète d'autres tapis, des corbeilles, des paniers. Donc, je développe une activité, on va dire, parallèle à mon travail. Mais j'envisage pas du tout de vendre des tapis ou des paniers. C'est, on va dire, un hobby, mais ça me change les idées, et puis ça me plaît, quoi. Et... J'aurais pas pu changer de vie tout de suite. Quand je suis revenue au bureau, j'avais plus aucune énergie. Je me sentais très faible. Et au bout d'un an, on se sent de mieux en mieux. Les effets des produits s'estompent. Et puis, on se dit, mince, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? C'est pas du tout... je veux plus faire ça. Et en fait, un jour, à Marrakech, j'ai développé un réseau, j'ai des amis... Et je vois qu'ils vivent complètement différemment de nous. Et puis, à chaque fois que je pars, je me sens de plus en plus triste, en fait, de quitter cette ville. Et puis, un jour, j'ai un ami qui me dit une phrase qui est toute simple, mais il me dit « Mais pourquoi tu restes pas ?» Donc moi, je rigole, je fais « Bah, rester, mais comment ça ?» Il me dit « Bah si, puisque t'es triste à chaque fois que tu pars, pourquoi tu ne viens pas vivre ici ?» Donc ça me paraît un peu... on va dire, saugrenue comme idée. Puis en fait, ça fait son chemin. Je me dis, bah oui, en fait, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? Finalement, après, en y réfléchissant, je me dis, oui, en fait, c'est pas si compliqué. Un jour aussi, ma boss, c'est plein de choses qui se sont accumulées. Un jour, Sandy me dit, oui, voilà, je... En tant que chef d'entreprise, voilà, j'ai des vraies questions par rapport à ce que tu as envie de faire. Comment tu te projettes dans l'entreprise ? Est-ce que tu comptes rester encore, voilà, je sais pas, un an, deux ans, cinq ans ? Et là, en fait, alors que j'avais pas décidé hein, de partir, je lui sors et ça m'étonne moi-même. Je lui dis « Non, je vais pas rester, je veux partir. » Et là, elle me dit « Dans un an, dans deux ans ?» Et je lui dis « Non, maintenant. » « Comment ça, maintenant ?» Je dis, bah ouais, j'en ai marre, je veux partir maintenant. Et bon, je ne suis pas partie maintenant, hein, puisque je lui ai annoncé en septembre, mais je suis partie en décembre, le temps qu'elle s'organise pour trouver quelqu'un d'autre. Voilà, donc on a fait une rupture conventionnelle. Puis je suis partie, on va dire, en douceur. J'ai mis quelques mois à partir. Et puis donc, voilà, au mois de décembre, c'était terminé sachant que moi, j'avais pas vraiment non plus de projet, en fait. Je suis partie un peu avec beaucoup, on va dire, d'inconscience, en tout cas. Ben, aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle, on va dire, et je vis entre Paris et Marrakech, que j'adore, que j'ai toujours adoré. La première fois que j'y suis allée à 20 ans, j'ai mis le sol. Dès que je suis descendue de l'avion, l'air, les odeurs, la lumière, je suis tombée folle amoureuse de cette ville, où après j'ai continué d'aller, on va dire, 3-4 fois par an peut-être. Et sur les dernières années, j'y suis allée de plus en plus souvent, une fois par mois. Et je vends des tapis berbères et de l'artisanat marocain. Je sélectionne des tapis. Comme c'est un produit qui est très à la mode, tout le monde veut des baignoires, notamment, qui sont des tapis blancs avec ces losanges noirs qu'on voit partout, toutes les blogueuses, dans tous les magazines de déco. Et donc après, je monte mon e-shop et puis j'ai cette idée de... Je connaissais pas très bien, moi, le milieu des pop-up. Et là, je rencontre, lors des pop-up, plein d'autres gens qui font comme moi, qui font des pop-up, qui ont des marques de bijoux, qui vendent des bougies, qui travaillent différemment, en fait. Une fois par mois, je loue une boutique, généralement dans le Marais, à Paris, pendant 3 jours. Et on partage un espace parce que les loyers sont très chers. Voilà, c'est ça un pop-up, c'est une vente éphémère et ça crée une espèce de dynamique dans le quartier. Les gens dans le Marais, ils sont habitués, il y a plein de pop-up et enfin, ils adorent ça en fait. Parce que chaque semaine, ils voient des créateurs différents. Ça fonctionne assez bien en fait. Et en fait, à terme, mon projet, c'est d'ouvrir ma maison d'hôte en fait. Mon riad, d'accueillir les gens chez moi avec ma déco. Voilà, j'ai envie de faire ça. Avec un associé, hein, on sera deux. Ouais. Bah oui, parce que j'ai zéro expérience dans ce domaine. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire ça. Et ça m'a toujours fascinée. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'en rêvais. Je me disais, j'aimerais tellement avoir un riad. Voilà, aujourd'hui, j'essaie de réaliser pour moi ce qui était juste un rêve, en fait. Si j'étais pas tombée malade, j'aurais jamais changé de vie. Hein. Ça, j'en suis sûre. Je serais toujours en train de, entre guillemets, de promouvoir les jeans aux rédactrices. Tout me paraissait très simple, en fait. Je me suis dit, voilà, je vais quitter mon travail, je vais prendre un appartement là-bas, je vais vendre des tapis, en attendant de faire ce que je veux vraiment faire, de trouver. Ça a été, en fait, le cancer, ça a été un élément déclencheur, et puis en fait ça m'a donné une force d'émancipation.